Vous écoutez
RMC. RMC, Rotten Régal.
Et la casquette Nissan, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette Nissan.
Le multiplex.
On s'en lasse pas.
Là, ça les met quand ils entendent ces commentaires-là.
Ils sont là, on accueille le leader pour l'instant, toujours leader, Jean Baumel à Lille, avant Lille Nice. Salut Thibaut.
Bonsoir François, salut, bonsoir Jérôme, bonsoir Captain, bonsoir à toutes et à tous.
Clément
bonsoir.
Brossard, notre correspondant sur la Côte d'Azur, est là évidemment avant Monaco-Lyon. Salut Clément.
Salut Jérôme, salut Captain, salut François, et un petit bisou à Edouard qui va connaître sa dernière dans la course au titre.
Ah bah justement, on retrouve Edouard Jeanne, correspondant à Lyon, qui va peut-être jouer sa place sur le podium ce week-end. Kiffer. Salut Edouard.
Ah là 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 là, vous connaissez pas le sprint terminal des Lyonnais.
Salut Doudou.
Non, le sprint terminal non. Et il sera des arbitres gagnants.
Parce que quand tu fais le sprint au début, t'es
client. Eh oui, c'est ça le problème. Ouais. Il sera des arbitres du titre, mais il joue aussi l'Europe. Xavier Grimaud, notre correspondant en Bretagne, est avec nous pour parler de Bordeaux-Rennes. Salut Xavier.
Salut Xavier. Qu'est-ce que c'est la course au titre ? Moi, j'en ai jamais entendu parler ici à Rennes, à Nantes, jamais. Dans l'Ouest, on connaît pas. Hein.
Ah, bah, quand même, Nantes, il y a quelques années.
Y a pas, ouais.
Ah, mais j'étais à peine né, moi.
Ah oui, mais t'es trop jeune, toi, c'est vrai. C'est vrai. Tu vas nous parler de Bruno Genesio.
C'est Nikita, donc ils n'ont pas joué le titre. C'est les
Non, loin de là.
Il va nous parler de Bruno Genesio, Xavier. Donc restez bien avec nous. Parce que ça,
rien que pour toi, Jérôme.
C'est juste pour Jérôme.
Là, il parle beaucoup mieux de football depuis qu'il y a Bruno Genesio.
Une série incroyable de victoires. Il va nous en parler. L'affiche de la 35e journée, on va commencer par ça, c'est Monaco-Lyon dimanche 21h.
Attention,
et on va commencer
j'arrive.
Avec toi Edouard, justement. Lyon est à 4 points du podium en cas de défaite,
ah bon,
ça fera 7 points à 3 journées de la fin, donc ça veut dire peut-être la fin pour le podium. Dernière chance Edouard pour l'OL d'accrocher une place sur le podium.
Ouais, à quoi on voit que la semaine est décisive ? Eh bien, le président Jean-Michel Aulas est présent à l'entraînement. Dans ce début de printemps en pente douce, fini la formule des 10 matchs, 10 finales. C'était mi-mars avant un déplacement à Reims. Depuis, 6 matchs se sont déroulés en 7 semaines. Reims, Paris, Lens, Angers, Nantes et Lille. 2 nuls, 2 victoires, 2 défaites. 8 points sur 18 en termes de points. La défaite en Coupe de France face à Monaco. Un décrochage au classement. Et puis désormais, donc 4 points de retard sur cette 4e place. Du coup, qui tout double ? C'est Jean-Michel Aulas qui l'a utilisé cette semaine parce qu'il a parlé en marge d'une conférence de presse de présentation de la nouvelle entraîneur de l'équipe féminine Sonia Bonpastor. Il en appelle à l'union sacrée. Alors, la Ligue 1, la Ligue des Champions plus justement, c'est donc l'objectif numéro 1. Mais c'est un quitte ou double, tu l'as dit François, duquel ce quitte ou double, le gardien du temple et des buts, Anthony Lopez veut sortir gagnant. Lui qui a l'ADN OL dans le sang élégant, il en voudra peut-être un petit peu plus que les autres dimanche soir. D'où les mots clairs, nets, précis et tranchants comme c'est sorti à l'évocation d'une fin mai sans Ligue des Champions.
C'est sûr qu'une deuxième année sans Ligue des Champions sera un énorme échec, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est pas du tout dans ma tête. Moi, je garde l'état d'esprit à gagner le match dimanche.
Pour penser qu'on est capable de faire des choses extraordinaires, bien sûr que le groupe a les ressources nécessaires pour faire basculer tout ça du bon côté. Bien sûr, j'ai aucun doute là-dessus.
Ouais, mais on sent quand même que la semaine n'a pas été facile à gérer, même si Rudy Garcia estime que la semaine d'entraînement a été très bonne en matière de concentration et d'implication. Il l'a répété, une victoire et l'OL revient à un petit point de Monaco. Peut-être plus facile à dire qu'à faire.
Et ils peuvent tout gagner, c'est ce que disait Rudy Garcia.
Ils peuvent battre tout le monde. Il y a 10 matchs, comme Edouard te le disait, c'était le cas aussi. Il y avait 10 finales, sauf que le bilan il est catastrophique. Et que moi j'y crois pas comme ça au sursaut d'orgueil et d'un seul coup aller gagner les 4 derniers matchs comme ça, sachant qu'ils vont jouer quand même une équipe de Monaco qui est en pleine bourre, qui déroule son foot, qui a l'avantage de recevoir. Alors même si c'est un contexte particulier, on sait aussi ce qui s'est passé sur le match de Coupe de France.
On va en parler d'ailleurs avec Clément.
Ouais. Voilà, donc c'est une source de motivation supplémentaire pour les Monégas, même s'ils n'avaient pas besoin que de ça. Et puis ils savent aussi, les Lyonnais, que même un match nul, c'est mort. C'est quasiment mort. Tu fais un match nul là, tu restes à 4 points de Monaco. Je vois pas sur les 3 dernières journées comment ils pourraient récupérer les 4 points sur l'AS Monaco, sachant que le goal average en plus n'est pas forcément favorable par rapport aux équipes qui sont devant. Donc je ne crois pas. Après le discours du président qui sort du bois, qui donne un petit peu des motifs d'espoir, mais
je sais pas si tu l'as regardé expliquer que 4 points, 4 matchs, 12 points, il était, j'ai vu, je l'ai senti, c'était passablement désabusé. C'est rare chez le président Aulas, mais j'ai vu cette conférence de presse, Doudou, et je l'ai senti un tout petit peu au bout du rouleau là-dessus. Bon, 4 x 3, 12, c'est vrai que c'est évident, ça, 4 x 3, 12.
Si tu l'as ressenti à travers ce que tu as lu et vu, en fait, de près, quelque part, bien évidemment, j'étais dans la salle de conférence de presse, ça, c'est flagrant, quoi, en fait. Donc, si ça s'est encore mieux vu, on va dire, à travers la vidéo, c'est preuve qu'on a l'impression qu'on n'y croit plus vraiment, quoi, en fait.
Ah ouais. Si Jean-Michel Aulas baisse les bras,
Le pire,
c'est pas qu'il baisse les bras, mais c'est, tu sais, quand tu dis, voilà, il faut gagner les 4 derniers matchs, il y a la façon de le dire, il y a le regard, ouais. Jean-Michel l'a dit, il y a le ressenti aussi qu'on avait en conférence de presse. Oui, il était là en disant, voilà, il y a 67 points, tu gagnes 4 fois 3, ça fait 12, 67 plus 12, ça fait 79.
Il dit ça
c'est comme on pourrait faire une multiplication et une addition à quelqu'un qui apprend à compter, sans vraiment de conviction.
Le pire, en plus de ça, tu peux nous sortir tous tes schémas mathématiques que tu veux, mais que même en gagnant les 4 derniers matchs, t'es même pas sûr de finir sur le podium.
Tu es
à 4 points, tu resteras à 1 point. Si Monaco fait un sans faute derrière, alors oui, il y a l'impact psychologique, si tu veux. C'est vrai que le fait d'aller gagner au Stade Louis II peut mettre un petit peu de doute dans la tête des Monégasques et se faire accrocher sur un des 3 derniers matchs. Mais quand même, ils partent de très loin, Lyon, et on sait très bien que le dernier match contre Lille, c'est peut-être là que la cassure a été définitive.
Alors qu'ils menaient 2-0.
C'est un ensemble de choses, et encore une fois, c'est pas avec des beaux discours et des trucs, il reste 4 matchs, 12 points à prendre. On le sait.
En tout cas, il reste 4 matchs, mais les 8 précédents montrent que la dynamique est pas terrible.
Elle est pas bonne.
Effectivement.
Elle est pas bonne.
On va passer à Clément, justement. Clément Brossard à Monaco, l'adversaire d'Edouard Jay et de Lyon. Donc, tu disais un petit peu tout à l'heure, en te moquant d'Edouard, que c'était fini pour le podium. Ça, c'est pas sympa. L'AS Monaco, qui a l'occasion de s'installer presque définitivement sur le podium, du coup, en cas de succès. Est-ce que le souvenir du match de Coupe de France de la semaine dernière, qui était tendu entre les deux équipes, est encore présent du côté de Monaco? On a entendu d'ailleurs cette semaine Juninho en parler aussi du côté de Lyon.
Ah oui.
Alors oui, en fait le feeling n'est pas très bon avec Lyon, pour tout vous dire. Certains joueurs n'avaient déjà pas apprécié le comportement assez hautain des Lyonnais, selon des proches du club, après le match aller remporté 4-1 par l'OL au Groupama Stadium. Et puis il y a quelques semaines, on a vu en effet un match assez rude physiquement, pas mal de coups, des petits règlements de compte. Kovac, généralement calme, s'est un peu énervé contre un adjoint de Rudy Garcia, une des premières fois qu'il s'agace autant. D'ailleurs, il avait demandé au banc lyonnais du respect quand Diop a été taclé par Deschiglio, entraînant l'entorse du Monégasque. Et en conférence de presse il y a quelques heures, il a calmé un peu le jeu en disant qu'il avait surtout essayé de réduire les tensions. Il a souvent évoqué l'arbitre de dimanche également, Clément Turpin, pardon, vous y verrez le signe que vous voulez. Ce sera un des meilleurs arbitres au sifflet, a souligné le coach de Monaco. Et puis, derrière, l'entraîneur s'est présenté Kevin Folland. Lors du dernier affrontement, il avait un peu mis le feu aux poudres en adressant un coup à Paqueta après 10 secondes jeu. Il a vite balayé le sujet. Je pense pas commencer le match de dimanche comme la dernière fois. J'ai été averti, passons à autre chose. Kevin Folland qui s'attend à un combat engagé dimanche. Écoutez-le.
The cup games are always tough and special. It's always a final, but
je pense qu'il y aura autant de tension que lors du match de coupe. Ce sera un match très dur, une sorte de finale. Les points sont importants. Lyon va se battre jusqu'au bout. On veut creuser l'écart et remporter ce match à domicile.
We fight for the points, but we as well, and we play at home.
Ils sont très excités, les Monégasques, ils sont surmotivés, même ça se voit, ça s'entend à l'entraînement à quelques heures d'un des tournants de cette saison. Kovac a conscience qu'une victoire éliminerait Lyon de la course à la Ligue des Champions, donc le match est lancé. Et puis source de motivation supplémentaire pour les Monégasques, vous savez pourquoi messieurs?
Non.
Chose très très importante, ce sera sous les yeux de Jérôme Rotten au Stade Louis II.
Eh oui.
Là, mais t'avais le droit de donner cette info? Tout le monde va vouloir se rendre au Stade Louis II alors que c'est interdit, on peut pas.
Écoute, ils me feront une petite escorte.
Toi, t'as le droit d'aller voir les matchs.
J'ai le droit, je travaille.
En tant que professionnel, évidemment.
Bien sûr.
Commentera le match avec Jeannot Rézéguet.
C'est retransmis en direct sur RMC.
Voilà. Oui.
Ça va être grand.
Un grand spectacle.
Non, mais déjà oui, parce que c'est une affiche alléchante. Là, on critiquait les Lyonnais, mais ça reste une grosse cylindrée de notre championnat. En termes comptables, ils font quand même une belle année. Monaco, c'est vraiment la grosse surprise. Non, c'est un match bien. Et pour parler des Monégasques, en effet, moi aussi, j'ai eu des échos comme Clément de l'attitude. On parlait de Juninho juste avant, l'attitude qu'il a pu avoir aussi avec Folland suite au coup à la mi-temps dans les couloirs. Mmh. Là, tout ça, ça reste dans les mémoires des joueurs et ils ont envie. C'est une façon de se venger. Mmh. Mais attention à pas sortir du match parce que quand tu vas être trop agressif, tu peux déjouer. Donc là, l'excitation.
Je crois pas que ce soit un terrain qui leur convienne.
Ouais, exactement. Parce qu'en face, t'as du répondant.
S'ils mettent la maillotche comme argument premier, je pense que
c'est pas par là que ça
pas
va.
La bonne chose. Ouais,
exactement. C'est pour ça qu'Oval sera là pour apaiser les tensions. C'est généralement ce qu'il a voulu faire passer comme message. Et puis juste une petite information pour vous dire que si Jean-Michel Aulas était à l'entraînement des Lyonnais, Paul Mitchell, le directeur sportif, était présent à la séance ce matin.
Et du côté de Lyon, on a bien évidemment reparlé de ce match il y a 10 jours. Et quand on a posé la question à Anthony Lopez sur le thème, est-ce qu'il va y avoir de la revanche dans l'air, il a dit non, pas de revanche. Il y a une revanche à avoir, c'est par rapport à nous-mêmes et par rapport à la prestation de Lille. On a, que ce soit Rudy Garcia ou Anthony Lopez, évacué ce côté belliqueux, on va dire, de cette affiche 10 jours après ce quart de finale électrique.
Puis messieurs, on se souvient du match aller aussi, où Monaco avait plutôt bien joué, mais s'était fait piéger par Lyon qui s'était imposé 4-1.
Ça reste c'était pas le même Monaco.
Ça reste aussi peut-être dans les mémoires. Oui, bien sûr, c'était il y a longtemps maintenant.
À l'époque où il y avait les portes ouvertes au niveau de la défense.
Ah ouais, là, exactement. Il y a eu les portes ouvertes.
Mais c'était un véritable test et un véritable tournant, ce match au Groupama Stadium, parce que Niko Kovac s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas forcément jouer comme ça contre les cadors de Ligue 1. Il avait fait un test en essayant de presser très haut et tout de suite il s'est ravisé et c'est à partir de là qu'a commencé l'ambiance du Monégasque.
C'est vrai, c'était même à la mi-temps dans la saison de Monaco. Le tour du stade, messieurs, dans le multiplex de Rotten Regal à 19h12 exactement. Une info.
Allez, soyez précis.
Jean Baumel, on va commencer par toi, Thibaut. À Lille, merci. Info
le
sur
temps,
le groupe
sport,
lillois.
Le temps,
info
le sport.
Sur le groupe lillois d'abord.
Le groupe lillois, bonne nouvelle, au complet. Il y avait une petite incertitude hier avec Weah et Sanchez. Donc Christophe Galtier a tout son effectif. Alors la compo probable, ça devrait être donc Maignan. Et en défense, de gauche à droite, Reynildo, Botman, Font, Celik. André Soumago au milieu, avec Bamba qui va certainement retrouver sa place de titulaire puisqu'il était sur le banc contre Lyon. Iconé ou Sanchez à droite, et puis devant, David et Yilmaz.
Lille-Nice, demain 21h. Xavier Grimaud, on a appris aujourd'hui un gros coup dur pour Angers.
Ouais, gros coup dur qui est tombé sur le SCO. Condamnation de la FIFA pour violation des conditions de transfert relais, amende de 30 000 francs et surtout interdiction de recrutement lors du prochain mercato. Alors Angers va faire l'appel, tout comme le Paris FC, parce que les deux clubs sont concernés. L'affaire, je vous la fais rapide, concerne le transfert d'un illustre inconnu, Kevin Bemanga, 22 ans. Il est arrivé en août dernier, il avait signé son premier contrat pro. La FIFA reproche aux deux clubs d'avoir voulu contourner les règles concernant les indemnités de formation. C'est une nouvelle règle, première fois qu'une sanction tombe. Ça pose pas mal de questions parce que Stéphane Moulin a déclaré cet après-midi: Bemanga, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, il a été rapidement prêté en Suisse et il y a pas mal de joueurs de son agent qui sont placés au SCO.
Étrange.
Ils ne pourront pas recruter Mbappé, c'est terrible.
Angers qui sera à Lorient
je crois
dimanche.
Je croyais que c'était l'annonce d'un entraîneur. Je croyais qu'ils avaient annoncé Mickaël Landreau. C'était ça la mauvaise nouvelle.
Patience.
Édouard, des infos sur le groupe lyonnais justement avant le choc face à Monaco.
Alors, retour de Sinali Diomandé qui était suspendu après son expulsion en Coupe de France. Jason Denayer, voûte plantaire, et Islam Slimani, douleur à la cuisse. Très incertain, il ne devrait pas être dans le groupe de dimanche. Melvin Barr, a priori, il a le Covid. On n'a pas eu plus d'informations, donc il est à l'isolement. Et donc, beaucoup de questions, notamment devant. Et a priori, on se dirige vers une défense à 4, mais avec beaucoup de questions sur les joueurs qui vont alimenter les autres lignes de la compo.
Et le groupe monégasque, Clément, avant justement ce choc face à Lyon.
Alors ça m'arrange d'entendre des absents côté lyonnais parce qu'il y en aura côté monégasque, pas mal même. Golovin Gelson pour des raisons de Covid, Diop pas remis de sage-fille, Jovetic touché au mollet, mais Kovac pourra toutefois compter sur sa défense au complet, sur son duo d'attaque Ben Yedder Folland, sur sa paire au milieu de Tchouaméni Fofana au combien importante, et puis les latéraux Caio Henrique et Aguiar qui pourraient être placés dans une position plus offensive.
Gagnez maintenant votre place pour la finale de la Ligue des Champions.
Envoyez foot par SMS au 732-16. Foot au 732-16.
Voilà, vous l'avez compris, Rotten Régal, porte bien son nom.
On
vous régale avec. Vous avez 20 minutes maintenant pour participer.
Je régale.
Pour remporter votre place.
Apporter ma valise.
La place, le vol, l'hébergement pour la finale de Ligue des Champions qui aura lieu le 29 mai prochain à Istanbul. Donc vous avez 20 minutes pour participer. Vous envoyez foot tout de suite au 732-16. Voilà, on vous régale dans Rotten Régal et sur RMC. Le basket, la finale de la Coupe,
je crois
Kazan Monaco.
C'est du 50-50 parce qu'il y a 50-50 au tableau d'affichage.
52-50.
Ouais, 52-50 pour Monaco. C'est vraiment un gros mano-mano. 7 minutes 10 encore à jouer dans le troisième quart-temps. Et donc à peine 2 points d'avance.
Je viens le faire, Arnaud, Monaco, si tu ne suis pas le match. Hein.
Si, je suis. Je vais en cabine. Mais viens en cabine avec moi, avec plaisir.
Non, bah non, il y a encore du boulot.
Appelle Stephen Brun qui vient, qui nous explique les paniers à 3 points.
Qui suit ça de très très près. Évidemment, Arnaud Valadon qui suit donc ce Kazan Monaco. On va suivre la fin du match avec toi, bien sûr. On revient tout de suite dans Rotten Régal pour la suite du multiplex. On va parler 54, avec Jean Baumel, du leader lillois et du bon début, des bons débuts de Bruno Genesio à Rennes. Allez, à tout de suite.
RMC. 18h-20h. Rotten Régal. François Pinet.
Jérôme Rotten.
19h17, toujours dans Rotten Régal, bien sûr. François Pinet, Jean-Michel Larquet. Allez, François, on continue le multiplex. Il y a des bonnes infos.
N'oubliez pas que dans 15 minutes, le multiplex européen, on ira en Angleterre pour des infos sur City avec Julien Laurence. Et en Italie, où l'Inter peut être sacré ce week-end pour la première fois depuis 11 ans. N'oubliez pas aussi le quiz 32-16, hein, si vous voulez vous inscrire pour jouer avec Jérôme ou avec Captain. On retourne à notre multiplex de la 35e journée de Ligue 1 avec Édouard Jay, Clément Brossard, Xavier Grimaud et Jean Baumel. Jibo, justement, le LOSC qui reçoit Nice demain à 21h, une semaine après leur victoire contre Lyon. Lille est donc à 4 marches du titre seulement, mais le problème, Jibo, pour Lille, c'est qu'ils jouent à domicile ce week-end.
Oui, c'est vrai qu'à domicile, c'est pas terrible. D'ailleurs, sur les 4 équipes de tête, bah, Lille, c'est le moins bien classé au niveau des matchs à domicile. Seulement 3 victoires en 2021. Et puis surtout, ces derniers matchs, 6 points de prix sur 15. Des nuls, notamment contre Brest, Strasbourg, Montpellier, une défaite contre Nîmes. Alors, il y a eu heureusement une victoire contre l'OM. Et en dehors de l'OM, et face à Montpellier, Strasbourg et Nîmes, à chaque fois ils ont été menés, et c'est vrai que ça devient problématique parce que Lille perd beaucoup de points, et on voit aussi que Nice a gagné facilement contre Montpellier dimanche dernier, alors que Lille avait galéré contre Montpellier il y a 15 jours de cela. Donc on va écouter Christophe Galtier parce qu'il en a vraiment conscience et il en a parlé à ses joueurs de ce problème à domicile.
Il y a ce que l'on faisait à domicile sur les 17 premiers matchs et ce que l'on fait à domicile depuis 2021. Et c'est insuffisant en termes de résultats et c'est insuffisant dans le contenu sur les entames de match. Donc on doit non pas être vigilant, parce qu'on l'est, on ne doit pas être plus vigilant. On doit y mettre d'autres ingrédients pour que nos entames de match correspondent à ce que l'on veut faire sur cette fin de championnat.
C'est ce qu'on a remarqué aussi, on l'a vu contre Lyon, on l'a vu contre Montpellier et d'autres matchs. Ces derniers temps, les premières mi-temps de Lille, c'est pas terrible, c'est ce que disait Christophe Galtier. Les entames sont difficiles et souvent ils sont à voir. Les blocs bas, c'est compliqué et on voit les résultats face aux gros. Eh bien, c'est plus facile, il y a des espaces, hein, on le voit à chaque fois. Voilà, ils vont devoir forcer leur talent. Et c'est vrai, Jérôme, on le disait souvent et Captain, c'est que le problème de Lille à domicile, quand il y a des blocs bas, ils veulent absolument rentrer dans la surface pour marquer. Bah, marquer à l'extérieur de la surface, comme m'a fait Bourak contre Lyon sur un coup franc. C'est ce qui manque un petit peu. Donc, à domicile, franchement, il va falloir vraiment que Lille fasse beaucoup plus, parce que c'est peut-être là qu'ils vont perdre des points.
Ouais. Oui, sauf que dans ce match-là, Nice n'a rien à perdre, rien à gagner. Donc on peut considérer que Nice ne va pas venir avec l'intention forcément de mettre un bus devant la cage de Benitez.
C'est possible, mais il reste en tout cas sur une belle série, les Niçois. Clément, 8 matchs, une seule défaite. Hein.
Ouais, les Niçois ça va mieux. Après c'est toujours pareil. Aujourd'hui ils sont largués au classement, du moins ils ont plus rien à jouer. Donc on a vu les failles de cette équipe plus d'une fois. Je trouve que ça manque souvent de concentration, de motivation, et puis bah, par moments de talent aussi. Si Lille est sur la bonne dynamique, et elle l'est, hein, quand tu as gagné à Lyon de la sorte, ça te donne de la force encore plus. Je pense que ce match-là, ils peuvent se le rendre facile.
Même si Jérôme, quand même, il y a certaines équipes dont on dit ils ont plus rien à jouer. Non, c'est peut-être là où parfois c'est le plus dangereux.
Écoute,
ces
François,
équipes qui jouent tranquillement.
Je tiendrai peut-être pas ce discours-là quand ils iront à Lens ou quand ils vont recevoir Saint-Etienne, parce que c'est les deux matchs qui vont suivre ce match-là. Si Jibo me confirme bien que c'est pas une bêtise. Ces deux matchs-là, après, si jamais ça se passe bien, en toute logique, ça doit bien se passer contre Nice. C'est après, parce que après, il y a le côté psychologique, mentalement, gérer la pression, parce que chaque faux pas est définitif si le PSG ou Monaco continue à faire un parcours sans faute. Et là, en effet, puis le derby aussi qui va arriver, tout ça fait que là, tu peux perdre un peu les pédales, mais et avoir un peu trop d'excitation. Mais sur le match de demain. Franchement,
ils avaient fait match nul contre Montpellier, c'est ça.
Oui,
en fait, c'est les références récentes qui sont
encore une fois la victoire à Lyon. Les gars, il faut pas oublier qu'à Lyon, tout le monde les voyait perdants. Et de la façon dont ça s'est passé, ouais. Mais tu te rends compte la force que ça donne au groupe. Mais écoute, même s'il y a des manques, bien sûr, tout n'est pas parfait. Et Djibo a raison, à domicile, sur un bloc bas et tout. Mais Jean-Michel aussi a raison. Nice, ils vont pas mettre le bus. Ils ont aucun intérêt à mettre le bus. Ils vont essayer de jouer, préparer déjà l'avenir, préparer la saison prochaine. Et quand tu joues,
c'est
trop,
pas le genre des Niçois de mettre le bus non plus. Genre, ils jouent généralement. Il y aura pas Gouiri, il y aura pas Thuram.
De toute façon, c'est dur de mettre le bus avec les défenseurs centraux. Tu peux me le rappeler, les défenseurs centraux de Nice là.
C'est pas mal puisqu'il y a eu le retour voilà de Todibo Saliba qui ont apporté un peu plus de sérénité.
Saliba, il a dit qu'il était le meilleur. Que Varane et Kimpembe.
Il n'avait rien à envier à Varane et Kimpembe.
Bon,
réuni.
On va parler. Oui. Puis on l'a vu depuis qu'il est arrivé.
On va parler un petit peu de Rennes maintenant. Xavier Grimaud, notre correspondant en Bretagne. On va parler de Rennes qui se déplace à Bordeaux dimanche et surtout de Bruno Genesio. Xavier, dont l'arrivée à Rennes est un succès pour l'instant.
Bah oui, c'est un succès. Bruno Genesio réalise tout simplement, messieurs, les meilleurs débuts d'un coach dans l'histoire du Stade Rennais. Avec 16 points sur 21 possibles. Sac victoire, un nul, série en cours, mieux que Stéphane, qui était deuxième en termes de ratio. Il y a un effet Genesio dans les résultats de l'équipe. Genesio, il a réveillé un groupe et une équipe qui a des qualités réelles. Je pense quand même au milieu de terrain et devant, notamment, il y a quand même des bons joueurs qui n'y arrivaient plus sous Julien Stéphane. La méthode, elle a été assez simple. Beaucoup de discussions. Libérer les blocages dans les têtes, car apparemment il y avait vraiment énormément de doutes chez les joueurs qui baissaient un petit peu la tête et rentraient la tête dans les épaules, et surtout prendre des risques sur le terrain. Et ça a donné beaucoup d'enthousiasme depuis quelques matchs du côté du Stade Rennais, le plaisir de jouer tout simplement. On peut écouter Bruno Genesio.
Ça fait déjà un moment qu'on a des sourires à l'entraînement, qu'on a aussi du sérieux et de la qualité, ce qui est quand même aussi le plus important, de la confiance. Et on sait à quel point la confiance est importante dans notre métier. Mais toujours, comme je l'ai déjà dit, la confiance n'empêche pas la vigilance. Toujours en alerte, toujours observer des signes qui peuvent parfois laisser penser un relâchement ou un manque de concentration. C'est notre job au staff et au coach de veiller à tout ça. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien.
Bruno Genesio n'a
j'ai les poils, j'ai les poils.
J'en entends qui rigole. Bruno Genesio, Jérôme, n'a pas révolutionné la compo d'équipe.
Bien réveillé.
Il y a quand même deux choix.
Par contre, j'ai perdu François, il s'est endormi.
deux choix ultra payants qui ont été faits. Si vous permettez que je termine, relancez Flavien Tay au cœur du jeu. Et puis Martin Terrier, qui est retrouvé depuis que Genesio est là, avec 5 buts et 3 passes quand même sur les 7 derniers matchs. Donc il y a une équipe quand même qui ronronne moins et une équipe qui va peut-être pouvoir au forceps atteindre son objectif de la saison, savoir se qualifier à nouveau pour la 4e fois de suite en Coupe d'Europe. L'équipe est mieux quand même, Jérôme.
Non, mais c'est vrai, là on rigole, je plaisante sur le truc. Non, mais c'est vrai, faut reconnaître qu'il a réveillé. Il avait réveillé ce groupe qui était en grande difficulté, en effet, dû à plein de choses, pas que dû au fait qu'ils étaient lassés du discours de Stéphane. Je pense que les ambitions rennaises étaient bien trop élevées cette année, qu'il y a eu des erreurs, énormément d'erreurs dans le recrutement pour rivaliser avec les meilleures équipes du championnat et aussi rivaliser en Ligue des Champions. Et on a vu que ça avait fait l'effet inverse, des joueurs dans le doute, un entraîneur qui a lâché prise au bout d'un moment. Donc je te dirais que c'était assez facile pour Bruno De Genesio de réveiller ce groupe. Rennes n'a pas l'effectif aujourd'hui pour finir 10e ou 15e du championnat. Par contre, Rennes tomber dans l'anonymat comme ils l'ont fait, c'est leur place et c'est ce qu'ils voulaient dans tous les cas. Donc même si Xavier, tu dis à juste titre que peut-être qu'il joue la place en Coupe d'Europe, bon, déjà quelle Coupe d'Europe ça va être et comment ils vont la jouer, dans quel état. Voilà, il y a eu l'effet. Maintenant, il faut pas non plus partir dans des Genesio a tout transformé. Genesio, c'est pas un entraîneur malheureusement qui transforme ses équipes.
Ils vont être arbitres de la fin de saison aussi, un match contre le PSG puis Monaco, donc ça va être important aussi pour eux.
Bah, s'ils ont des ambitions, ils vont les jouer à fond ces matchs-là dans tous les cas.
Captain, tu voulais rajouter quelque chose sur Bruno Genesio?
Non, finalement.
Il s'est parmi du discours.
C'est vrai que le discours m'a bouleversé.
Bon, d'accord, ok. On en reste là, alors, Captain.
Non, mais attends. Mais quand j'étais d'active, comme disait l'autre, je faisais des fixettes. Mais Jérôme, tu prends bien le chemin quand même.
C'est vrai. Mais c'est le maître et l'élève. C'est sûr.
Écoute-moi. Mais je croyais que tu avais perdu un petit peu ta splendeur là-dessus, Jérôme.
toi.
Non,
je suis on toujours. On a pas parlé de Didier Diguerre encore en plus.
Non, ne le lancez pas, s'il vous plaît. On a un conducteur à tenir.
Moi,
je vais pas y arriver.
J'ai toujours suivi Jean-Michel dans tout ce qu'il avait. Et c'est vrai, en effet,
même
il y a
avec
des fixettes.
Ses excès, voilà. Même avec ses
ouais,
excès.
Beaucoup trop.
Et ses petits défauts. Et ses petits défauts. Bon, le tour des stades dans le multiplex de Rotten Régal à 19h26. Quatre infos, une info chacun, messieurs. Edouard, on va parler de Lyon avec les joueurs qui ont eu deux jours de repos cette semaine. Et ça a surpris un petit peu tout le monde.
Oui, il y a eu un petit débat d'idées à Lyon. Comment gérer cette semaine de remobilisation entre deux rendez-vous d'importance, dont un complètement manqué comptablement, c'était donc face à Lille. D'aucuns ont rappelé que dans des grandes années, dans des époques comme ça, il y avait des stages qui étaient organisés à Évian, à Aix-les-Bains, pour un petit peu remobiliser tout le monde. Les mêmes ont souligné qu'il y a eu deux jours de repos retour mercredi matin. Et Rudy Garcia a semblé un petit peu sur les nerfs sur cette question-là. Il a parlé, lui, de fraîcheur mentale. Ça fait 10 mois qu'on est sur le pont parce qu'on a commencé au mois de juin dernier. Dans cette période, il faut aussi donner un petit peu de repos, notamment aux internationaux. Chose faite, et il faut garder le cap et gagner à Monaco. Voilà les propos et la réponse de Rudy Garcia.
Clément, Nice se rend à Lille et ça sera un arbitre de cette course au titre, les Niçois.
Oui, parce qu'il y a ce match à Lille demain et un match à Lyon lors de la dernière journée. Jouer contre des équipes avec de tels objectifs, c'est un levier de motivation, a expliqué Adrien Urcea. Et si Jean-Claire Todibo, le défenseur, ne nous a pas donné de favori hier en conférence de presse, eh bien Morgan Schneiderlin a lui expliqué après la victoire contre Montpellier la semaine dernière que pour lui Paris était favori et qu'évidemment il aimerait ne pas voir Monaco sacré champion, même si évidemment ils donneront tout face à Lille et Lyon. Il y a la petite rivalité quand même locale.
Évidemment, Jean Baumel dans le Nord, Lens qui sera face au PSG avec son gardien remplaçant. Ce sera pas le cas.
Ouais, et petite info qui est tombée tout à l'heure, Kakuta sera dans le groupe, donc bonne nouvelle pour les Lensois. Ouais. Et l'absent majeur, c'est surtout Badé et Haïdar. Pour le reste, tout le monde est là. Et c'est vrai que là. Et Jean-Louis Leca, bien sûr, qui lui est absent. Et donc Farinez, le gardien international vénézuélien de 23 ans, va faire ses grands débuts, en tout cas en tant que titulaire en Ligue 1 face au PSG. Donc vous imaginez un petit peu pour ce garçon de 23 ans. Alors il a d'expérience, c'est un joueur adoré par Jonathan McCarthy parce qu'il en parle tout le temps en bien. On a vu quelques passages. Ouais. Il est intéressant, il est assez spectaculaire. Donc ça sera l'une des attractions demain au Parc des Princes.
Alors, si Jonathan l'aime bien, alors.
Alors je peux dire qu'il en parle tout le temps et j'ai vu quelques exploits.
J'ai vu le match contre le Red Star.
Ah oui, bon. Non, là.
Je suis désolé, mais je peux avoir des doutes.
C'était pas celui-là qu'il fallait regarder.
T'as pas regardé le bon match.
Bah, en fait, faut pas regarder les matchs parce qu'il en a pas fait beaucoup. Donc, en fait, faut pas le regarder.
Xavier, un mot aussi de Nantes qui poursuit son opération maintien. Ça sera à Brest ce week-end après sa victoire contre Strasbourg la semaine dernière.
Ouais, et cette victoire à Strasbourg, alors que Nantes était menée au score 19e et largué, ben voilà messieurs, le tournant de la saison pour les Canaries, parce que Nantes est désormais barragiste, avec, je cite Camboiré, un calendrier sans excuse pour ne pas se maintenir. On va à Brest pour gagner, peu importe comment, peu importe combien. Voilà, les Brestois, les Nantais ont un calendrier qui paraît assez simple sur le papier. Le bémol, et c'est un gros bémol, c'est que Nantes n'a jamais enchaîné deux victoires cette saison. Ce serait le bon moment pour casser ça à Francis Leblé.
Brest-Nantes, ça sera dimanche à 15h. Merci beaucoup Xavier. Merci Edouard. À très bientôt, merci Clément. Et merci Djibo.
Bonne soirée à tous, à demain.
Bonne soirée, bon week-end à vous.
On vous écoute bien sûr.
Prépare-toi Edouard, on arrive.
Arnaud Baladon pour le basket Kazan Monaco, où on en est cette finale de Eurocoupe?
C'est toujours le même scénario, un point d'avance seulement pour Monaco. Il reste chaud. 30 secondes dans le troisième carton. Il y aura encore 10 minutes après, 64-63, les Monégasques ont eu 4 points d'avance.
Irrespirable.
Ouais, exactement, 5000 personnes en plus en Russie à Kazan. C'est étouffant, irrespirable, tu l'as dit Jérôme, mais Monaco est vraiment dans le coup. Et égalité désormais, 64 partout, et même un point d'avance désormais pour Kazan, 65-64, 30 secondes à jouer dans le troisième carton.
On suit ça de très près. Merci beaucoup Arnaud. Le quiz, n'oubliez pas, ça sera à 19h45, 32-16 pour y participer avec la team Jérôme ou la team Jean-Michel. Mais tout de suite, ça c'est le multiplex européen dans Rotten Régal. On va aller en Angleterre et en Italie où la saison se joue peut-être ce week-end. Restez bien avec nous.
RMC Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
19h33, toujours dans Rotten Régal. François Pinet, Jean-Michel Larquet, toujours avec moi. Avant le quiz.
Oui, le quiz, n'oubliez pas, 32-16 d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
C'est un moment.
Avant le quiz, on va lancer le multiplex européen.
On y va, on va en Angleterre et en Italie ce soir.
RMC, Rotten Régal. Le multiplex européen.
Et on cherche toujours le but de Jérôme Rotten avec les Glasgow Rangers, commenté en anglais. On va essayer de. On est en train de fouiller.
Il faut le retrouver, ouais. À l'entraînement, c'est sûr qu'il y en a eu.
Les archives, c'est compliqué.
Il faut l'inventer, non?
On a entendu. Julien Laurence est là.
Commence pas à m'attaquer.
Salut, Julien.
Salut, Julien.
Salut à tous.
Le correspondant en Angleterre. Et Johan Crochet pour le foot italien. Salut, Johan.
Salut messieurs.
Tu t'es remis de l'humiliation de ton compère Julien hier soir, la 6-2 Manchester United contre la Roma.
Quelle humiliation. Ça pique encore un peu, je dois vous avouer. J'étais à peine remis du 7-1 de 2007, et là il y a un 6-2, donc ça fait toujours aussi mal.
Bon, heureusement, t'as la Ligue des Champions pour te rattraper.
Exactement, ouais, sans problème.
La semaine prochaine.
Ah oui, tu te régales cette saison, Johan, c'est vrai. Hein. Les clubs italiens, ils font plaisir à voir en Coupe d'Europe.
Il y a pire, il y a Polo qui est même pas en demi-finale depuis une des compétitions. Donc, je suis pas dernier.
N'attaque pas les absents. Julien, tiens, on va commencer par toi et par le week-end de City avant de retrouver le PSG pour le retour de la demi-finale. City qui joue demain contre Crystal Palace. Il y a une chance d'ailleurs pour que City soit champion dès ce week-end. Et la question qu'on se pose, c'est comment Guardiola va-t-il gérer ce match? Parce qu'on s'est posé la même question avec Pochettino en début d'émission par rapport au match de Lens ce week-end.
C'est vrai. Alors il a un effectif pour faire tourner, bien sûr. Pep Guardiola, on le sait bien. Même si il faut juste regarder le banc de mercredi soir. Finalement, les Sergio Aguero, les Raheem Sterling par exemple, ou même des Ferran Torres, Fernandinho, etc. peuvent facilement jouer et aller à Crystal Palace, l'emporter et peut-être être champion dès ce week-end. Effectivement, si le reste des résultats vont dans leur sens. Donc ça, c'est facile à faire. Alors est-ce que tu gardes un plus gros noyau de l'équipe de mercredi et de l'équipe qui jouera mardi pour garder cette dynamique positive et continuer, même si tu peux faire jouer que des 60 minutes à De Bruyne ou à Phil Foden par exemple? Ou alors est-ce que tu changes pour faire reposer un petit peu les jambes avant mardi? Justement, ils s'attendent à un gros combat mardi soir. Pour eux, c'est pas du tout fait, c'est pas du tout gagné encore cette place en finale. Donc on va voir ce qu'il va choisir. Moi, je pense qu'il va largement faire tourner, qu'on pourrait voir facilement du 6-7 changements sans aucun problème et que cette équipe de City reste encore très compétitive.
On avait déjà parlé du banc de touche, du banc des remplaçants.
Qui est impressionnant déjà.
À Paris. Donc ceux-là, ils peuvent les faire rentrer. Et je pense qu'il ne craint pas, il va pas craindre de perdre ce match. En tout cas, même avec ces joueurs-là, les Sterling et compagnie, il aura une équipe compétitive. Il n'y a pas de souci.
Oui. De toute façon, Guardiola est dans la gestion et puis on l'a vu, il est focalisé sur les matchs de Ligue des Champions maintenant parce qu'il sait qu'il va être champion d'Angleterre et on l'a vu dans la façon d'aborder ce match contre Paris, du moins de le gérer. Il y a eu très peu de changements. Il y a eu Zinchenko qui est rentré en deuxième mi-temps.
Oui, parce que Cancelo avait eu un jaune en plus.
Après il a fait confiance à son 11 titulaire. Ouais. Donc ça serait logique en effet que surtout qu'il y en a certains qui ont eu des pépins. Dernièrement, Kevin De Bruyne, d'autres qui peut laisser aussi au repos. On arrive dans des périodes où encore plus par rapport au contexte, les joueurs ont beaucoup joué. Là, c'est quand même l'idéal pour Manchester City de préparer ce match contre Paris.
Il va mettre De Bruyne dans le chloroforme.
Je pense aussi. Stones est suspendu, donc déjà lui, il restera à la maison sans aucun problème.
Ça sera la porte, a priori. Ouais.
La porte, effectivement, avec Ruben Dias. Après, tu peux voir facilement un Benjamin Mendy par exemple est titulaire pour ce match contre Crystal Palace pour mettre au repos Zinchenko et Walker ou Cancelo, voire même Cancelo. Donc c'est vrai qu'il a tellement d'options, tellement de possibilités que le match le plus important, encore une fois, des 7 prochains jours, c'est celui de mardi et pas du tout celui de...
Exactement.
Peut-être qu'ils ne seront pas champions ce week-end et pourtant ils ont une bonne occasion parce qu'il y a Manchester United Liverpool ce week-end, Julien.
Dimanche, effectivement, le gros derby, le gros match entre... Alors c'est pas vraiment comme ça, en tout cas que les Anglais l'appellent. C'est un nom marketing celui-là. Non mais c'est pas grave. Mais pour les puristes qui nous écoutent, savent que c'est pas comme ça qu'on l'appelle. Mais ça reste le plus gros derby pour moi de l'histoire du football anglais. Jurgen Klopp n'a jamais gagné à Old Trafford contre Manchester United arrivée. Ouais, c'est fou. Hein, depuis son arrivée à Liverpool il y a maintenant 5 ans. Donc c'est vrai que ça lui manque. Et puis eux surtout, plus que United qui est assuré de finir dans les 4 premiers quoi qu'il arrive, mais surtout pour Liverpool, cette course à la 4e place notamment pour rattraper Chelsea, c'est compliqué, il leur faut des points et tu peux pas passer à travers d'un match pareil. Donc c'est vrai que c'est gros match avec beaucoup d'enjeux, plus pour Liverpool encore que pour Manchester United, mais qui est sur une telle dynamique. United, comme on l'a vu hier contre Johan et les cousins de Johan, c'est vrai que tu veux aussi continuer à surfer là-dessus pour après pour continuer et finir la saison en trombe.
Il est pas mal ce Cavani là, hein. Il était pas mal.
Ils auraient dû le prendre au Paris Saint-Germain,
il aurait fait du bien. Il aurait peut-être pas joué.
Alors ESPN annonce aujourd'hui que Cavani a décidé de rester. D'ailleurs, c'était la grande question. On en parlait hier dans l'avant-match et pendant la rencontre aussi sur cette année de supplémentaire de contrat qu'il a dans son contrat, ce plus un que les deux parties doivent être d'accord pour lever ensemble. C'est pas simplement le club ou le joueur qui peut lever le version de la deuxième année. Et visiblement, il aurait choisi d'après ESPN, et c'est plutôt une source assez sûre, fiable, effectivement, annonce qu'il a choisi, il a décidé donc de rester cette deuxième saison à United, United qui voulait absolument le garder, lui qui apporte pas simplement les buts, comme on l'a vu hier, il est dans une grande forme, mais aussi l'expérience, notamment pour les jeunes joueurs, qui est vraiment, qui a bonifié ce vestiaire, et qui est adoré par tous, et il voulait absolument qu'il reste, lui, n'avait pas encore complètement choisi, visiblement il a choisi, et donc c'est vraiment, si ça se confirme, très bonne nouvelle pour United. Ouais. C'est
pas Julien, j'ai juste une question people. Comment apprécier Werner la petite réflexion de Madame Thiago Silva?
C'est une bonne question, Capitaine, ça, tu
alors,
sais.
On va rappeler alors, que Madame Thiago Silva, pendant le match justement de Chelsea-Real Madrid, elle a critiqué Werner en disant à chaque fois qu'elle va dans un club, il y a des attaquants qui mangent la feuille, en quelque sorte. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais voilà.
Il était pas dans le récidiviste.
Ouais. Alors les coutumières du fait, effectivement, c'est pas la première fois où Unai Emery, je pense, s'en rappelle encore. Je sais pas si Timo Werner, qui a plutôt un bon sens de l'humour, qui a plutôt un bon second degré, je sais pas s'il l'a pris comme bien. Une blague ou plus personnellement, Captain, je sais pas, mais je vais me renseigner et puis je te dirai.
Ah
ça.
Bon, d'accord, mais très bien.
Johan, en Italie, l'Inter Milan qui peut être sacré ce week-end, à 5 journées de la fin, puisque l'Inter se déplace à Crotone et chez le dernier, alors que l'Atalanta qui est deuxième se rend sur la pelouse de Sassuolo, donc il y a une vraie chance pour que l'Inter retrouve un titre 11 ans après.
Exactement. Alors pour ça, il faut donc que l'Inter gagne à Crotone, mais ça normalement ça devrait pas être trop compliqué. Et puis tu l'as dit, que l'Atalanta ne s'impose pas sur la pelouse de Sassuolo. Alors le problème pour Sassuolo, c'est que cette équipe-là, quand elle joue l'Atalanta, ben elle déjoue totalement. Je vais vous dire, sur les 5 dernières rencontres entre l'Atalanta et Sassuolo, Sassuolo a pris 5 buts, 4 buts, 4 buts, 3 buts et 6 buts. Donc, il y a quand même des chances que l'Atalanta remporte ce match et donc que l'Inter ne soit pas sacré champion ce week-end. Malgré tout, c'est une possibilité. Alors, on le sait maintenant depuis plusieurs semaines. On n'attend qu'une chose, c'est à quelle journée va être sacré l'Inter. Ouais. Il n'y a même pas de doute si ça va être le cas ou pas. Ça fait bien longtemps que ce doute-là a disparu. Le Scudetto, il est très attendu, évidemment, parce que au-delà même du fait de gagner depuis 2010, et ça c'est évidemment très important, c'est aussi d'interrompre la série de 9 Scudetti de la Juve, et ils empêchent même, parce que tout le monde attendait le 10e, quand tu fais une passe de 10 dans le même championnat, pour tes adversaires c'est un gros coup au moral, et là ils vont empêcher la Juve de réaliser cette passe de 10 Scudetti consécutifs. Donc il y a beaucoup de symboles dans cette saison de l'Inter, qui a réussi malgré tout à passer la deuxième quand ils ont été éliminés de la Ligue des Champions, parce que jusqu'à cette élimination-là, qui était d'ailleurs très très décevante et qui restera un peu comme une petite tache noire quand même sur la saison de l'Inter, parce que cet effectif-là avec autant d'expérience, bah il doit aller beaucoup plus loin que ça en Coupe d'Europe, parce que là c'est même pas ne pas se qualifier en Ligue des Champions, c'est même être éliminé, ne pas être reversé en Europa League. Donc ça c'est vraiment la tâche qui restera pour Antonio Conte et ses joueurs, mais malgré tout, on ne peut pas non plus nier qu'ils ont tiré profit de cette élimination, qu'ils ont accéléré, qu'ils gagnent beaucoup de matchs maintenant, qu'ils jouent un seul match par semaine, que tout va bien, il n'y a pas de blessés, qu'ils mettent le même 11 chaque semaine et que tout va bien. Donc ça fera, je ne sais pas si on peut dire que ça fera un beau champion, parce que dans le beau, chacun il met un peu ce qu'il veut et on n'a pas tous les mêmes sensibilités par rapport à ce qu'on aime dans le football. Mais en tout cas, ça va être très intéressant de voir ce qui va s'ouvrir maintenant pour l'Inter. Et surtout, ça fait un peu de variété, parce qu'après 9 Scudetti de la Juve, finalement, c'est pas si mal que ça change un peu.
Ah, ouais, on s'ennuie.
Non, mais on s'ennuie pas en Italie, parce que la Juve...
C'est pour ça que Pirlo a dit, non, allez, 10, ça ferait trop, donc.
Ouais. Non, mais la Juve, en plus, est clairement en danger de pas jouer la Ligue des Champions. C'est tellement serré.
Un peu comme Liverpool.
Ouais, alors ça serait vraiment une grosse tuile, parce que ne pas être champion, finalement, tout le monde se disait, on s'en rapproche au fur et à mesure des années, tu te rapproches du moment où tu vas plus gagner.
La Super League.
Ça te reste un peu en travers de la gorge, j'ai l'impression, Jean-Michel. La Super League.
Il a pas digéré.
Ouais, exactement. Mais là, c'est même pas de pas gagner le Scudetto, c'est ne même pas être compétitif pour tenter de le remporter, et surtout si tu n'es pas qualifié pour la Ligue des Champions. Là, c'est déjà la Ligue des Champions, celle de cette année, t'as fini en 8e de finale contre Porto. Avant, t'as fini contre Lyon en 8e de finale. Là, si tu n'y vas même pas, alors on va évacuer tout de suite le problème économique, parce que ça va en être un. Si tu n'es pas qualifié, les recettes importantes de la Ligue des Champions, tu ne les auras plus. Déjà que la Juve, je le rappelle, doit réaliser plusieurs dizaines de millions d'euros de ventes avant le 30 juin. Pour l'équilibre de son bilan financier.
Ah oui.
Donc il y a déjà cet impératif-là, même si tu te qualifies en Ligue des Champions. Donc si tu ne te qualifies pas en Ligue des Champions,
il va falloir
ça sera encore pire. Ouais. Exactement. Et puis il y a aussi des joueurs qui vont tousser un peu, je pense. Ronaldo, pas de Ligue des Champions, vous y croyez vraiment? Ouais. Même un Matthijs de Ligt qui est dans la force de l'âge, ne pas jouer de la Ligue des Champions pendant une saison.
Ça peut arriver ces joueurs-là. Du moins, de Ligt, hein, je te parle pas de Ronaldo, parce que Ronaldo, en effet, ça peut être problématique pour plein de choses, parce que lui, c'est une force de la nature.
Il est en bout de course aussi.
Et qu'il est à la fin, oui, bah, il a envie de profiter de ses dernières années.
C'est vrai.
Un max de choses. Après, c'est toujours pareil, hein. Il y a l'offre et la demande. Hein.
Ouais.
C'est clair. Ronaldo, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des clubs qui aimeraient bien le prendre, mais vu le contexte et vu
On en parle au Paris Saint-Germain, non.
Non, mais on en parle à chaque fois, Paris. T'as l'impression que c'est pas une maison de retraite, parce que c'est des joueurs. Moi, je veux pas parler comme ça de ces joueurs-là. C'est des joueurs tellement incroyables. Mais c'est vrai que dès que t'as un gros joueur qui a une possibilité de partir, on dit c'est à Paris.
Peut-être Ronaldo.
Oui, hein.
On agite facilement les drapeaux City évidemment, et PSG dès qu'il s'agit de gros montants de transfert, alors que même ces clubs-là sont impactés par la crise.
Exactement.
Bon. Merci beaucoup en tout cas, Johan. Merci, bon week-end à toi. Ça va être passionnant.
Merci, messieurs.
On va suivre ça sur
RMC.
Merci
à toi, Julien aussi.
Merci, Julien. À très bientôt. Ah bah il est parti déjà.
Il est déjà parti. Julien, il est comme la Roma hier, il est parti.
Je suis là encore, j'écoute tout.
Bon,
c'est passionnant, mais moi les clubs qui sont pas en Coupe d'Europe, ça m'intéresse pas trop,
toi,
tu vois.
Évidemment,
donc
bien sûr.
Et puis arrête de faire le fourbe pour mardi. Hein.
Non, t'inquiète pas, on te connaît,
Julien.
On va suivre Crystal Palace, Manchester City, évidemment, demain.
Tu nous as annoncé De Bruyne forfait, t'as voulu nous la faire à l'envers, on a vu. On la connaît l'histoire.
Merci les gars. Bonne soirée à vous. Le basket, Kazan Monaco, Arnaud Valadon, l'Euroco, où on en est?
Et 2 points d'avance pour Monaco à 5 minutes de la fin. Ça peut aller en prolongation, cette histoire. On rappelle que Monaco a gagné le premier match mardi.
Je rentre pas à l'antenne tant que c'est pas.
Ah bah si, moi j'ai des trucs à faire après.
Bah 5 minutes, c'est bon.
Et si Monaco gagne ce soir, c'est le titre. En revanche, s'il y a défaite, il y aura une belle dimanche. 25 points pour Rob Gray, l'américain shooter fou de l'AS Monaco. Donc les 5 dernières minutes, le money time et 2 points d'avance pour l'AS Monaco.
Oh là là, avec l'accent. Merci beaucoup, Georges Eddy. Allez, tout de suite, c'est le quiz de Rotten Régal 32-16 pour jouer avec nous. À tout de suite.